9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, à votre bonne santé. Tous les mardis, nous retrouvons Nadia Elbouya qui est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme et sexologue clinicienne. Comment allez-vous Nadia ce matin?
Écoutez, très bien, alhamdoulilah. Le ramadan avance, nous sommes dans le courant de la troisième semaine, donc il est passé assez vite.
On a dit qu'on ne comptait pas les jours cette année.
Non, mais on se situe quand même. N'oublions pas qu'il y a trois décades dans ce ramadan et qu'elles sont quand même symbolisées par des objectifs. Donc c'est intéressant de savoir quand même où on se situe.
Alors, deuxième émission, je ne répondrai pas. Deuxième émission, parce que je n'ai pas l'énergie.
Ouais, il n'y a pas de souci.
Deuxième émission consacrée aux femmes qui comptent avec notre invitée Élise Saint-Julien. Bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes journaliste passionnée par les religions, les droits des femmes et vous avez fait de l'islam votre sujet d'étude.
Exactement.
Et vous publiez Musulmanes du monde à la rencontre de femmes inspirantes. Alors c'est un livre de portraits, 30 femmes qui prouvent que c'est possible. Mais qu'est-ce qui est possible ?
Alors, il est possible d'être musulmane et féministe, il est possible d'être musulmane et de militer, de danser, de faire de la politique, de faire du sport, de faire plein de choses. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre.
Mais qui pense que c'est impossible ?
Alors, il y en a beaucoup, malheureusement.
Ah, c'est d'actualité en plus,
c'est d'actualité.
Là. Et c'est même pas fait exprès, d'ailleurs.
Oui, l'émission était prévue avant. C'est toujours d'actualité, plus polémique. Ou moins. Il y a toujours une polémique qui traîne. Donc c'est vrai que, oui, c'était mon idée, c'était de casser un peu tous les préjugés qu'il y a sur les femmes musulmanes. L'idée qu'elles sont un peu soumises à leur mari, leur frère, qu'elles sont passives. Et justement, de montrer une image positive, de montrer tout ce qu'elles apportent au monde. Leur réussite pour une fois, toutes leurs compétences, et donc voilà, c'était l'objectif premier de ce livre.
Alors c'est chouette parce que on a reçu Attika Travelsi, oui. Et donc il a aussi écrit un livre sur les femmes oubliées des civilisations, enfin des cultures dites arabo-berbéro, turco-africano-musulmanes. Et donc elle est remontée dans le passé et vous avez fait le choix de mettre la lumière sur des femmes plus contemporaines.
Oui, déjà je pense que je suis peut-être plus à l'aise avec des profils contemporains. Et puis aussi je sais qu'il y a déjà plusieurs, on connaît bien les femmes du temps du prophète, donc je me suis dit que ce serait bien de montrer qu'il y a une continuité en fait, et que il y a des femmes contemporaines qui sont aussi très actives, très engagées, et montrer comment elles contribuent à un monde meilleur, à la paix. Et je me suis dit aussi que pour les adolescents, c'était peut-être plus facile de s'identifier à des modèles contemporains en fait.
Tout à fait. Qui pour le coup semble plus accessible en fait. On se dit que si c'est à notre époque, c'est faisable aussi.
Exactement. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de pionnières dans le livre aussi, de la première à avoir escaladé l'Everest, la première à avoir le prix Nobel de la paix, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que vraiment, elles puissent se dire, moi aussi, je peux être la première à faire telle chose. Mmh. Et voilà.
Des figures d'identification, comme.
Exactement. Et j'ai essayé que ce soit des femmes, montrer toute la diversité des femmes musulmanes, parce que souvent on parle de la femme musulmane, alors qu'en fait elles ont des identités multiples. Donc on a des femmes arabes, ouïghours, européennes, africaines et australiennes. On a des jeunes, des moins jeunes. On a une
alors là tout de suite les gens vont dire australienne. Mais qu'est-ce qu'elle raconte?
Oui, une Australienne, du coup, qui est...
qui est danseuse et convertie.
Qui est danseuse ballet.
D'origine russe.
Alors, je montre pour la vidéo.
Voilà, elle est plutôt jeune aussi, du coup. Voilà, je voulais vraiment que les jeunes filles puissent conjuguer leur identité multiple et qu'elles puissent se retrouver dans différents modèles. Quoi.
Alors, justement, l'exemple de Stéphanie Curlo est typique. C'est-à-dire que là, on a un domaine qui est la danse classique, où il y a certains codes vestimentaires qui peuvent, comme ça, où on pourrait se dire de prime abord, mais aucune compatibilité avec une femme musulmane pratiquante qui porterait un voile. Et pour autant, elle nous démontre complètement l'inverse.
Oui, mais j'ai voulu montrer que on peut faire plein de choses en fait, et qu'il ne faut pas se limiter que les femmes musulmanes doivent pas se limiter et qu'elles peuvent vraiment faire tout ce qu'elles veulent en accordant leur foi, leur conviction, c'est tout à fait possible en fait.
À noter que les 30 femmes dont vous dressez le portrait dans votre livre ne portent pas tous tout le foulard, hein, voilà.
Exactement.
C'est musulmanes.
Pour montrer, elles sont
dans toute leur diversité.
Peut-être plus pratiquantes que d'autres peut-être de culture musulmane. Voilà, oui. C'est.
Alors effectivement, vous faites très bien de le préciser.
Parce que la couverture pourrait prêter à confusion, effectivement, en disant bon, ce sont 30 femmes qui portent le voilà.
Non,
qui
parce qu'on a des femmes qui ne portent pas le voile sur la couverture.
Enfin, pas des une.
Deux, il y en a deux.
Ouais, enfin bon.
Elle a un chapeau traditionnel. Oui, voilà. Non, c'est équitable. On a deux femmes qui portent un voile et deux femmes qui n'en portent pas. Mais je disais, effectivement, vous avez totalement raison, Philippe, parce que aussi, j'aime pas du tout le terme, mais je vais l'utiliser pour qu'on se comprenne, en intracommunautaire, il faut aussi qu'on sorte de ces clichés-là, de penser que la femme musulmane, et d'ailleurs, il n'y a pas deux femmes musulmanes, c'est que les femmes musulmanes sont celles qui porteraient un fichu, comme a dit certains à une époque, sur la tête.
Oui, je pense que ça répond à ça. Moi, j'ai essayé que ce soit, qu'il y ait des femmes qui le portent ou d'autres, exactement.
Vous avez, vous aussi, été en raccord avec ces clichés, à un moment de votre vie, sur les femmes musulmanes?
Oui, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que, comme je le dis donc, dans la préface, j'ai rencontré du coup une jeune femme qui portait le voile à l'université, et c'était la première fois en fait que je parlais vraiment avec une femme musulmane.
Une Algérienne.
Le voile, exactement. Mmh. Et du coup, ça m'a vraiment. Ça a élargi mes horizons.
Et alors que vous étiez aussi porteuse de clichés,
représentations. Oui, je pense que oui, parce que dans mes souvenirs, j'ai posé plein de questions auxquelles elle a gentiment répondu. Mais forcément, c'était pas mal de clichés. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert des horizons. Et c'est là où je me suis intéressée vraiment à l'islam, aux femmes musulmanes, tout ça. Exactement.
Et vous vous êtes convertie à l'islam, du coup?
Oui.
Enfin, pas immédiatement après.
Non, il y a eu un cheminement quand même.
Plusieurs
années après, exactement. Mmh. Ouais.
Mais en quoi cette rencontre avec cette jeune femme à la fac a changé votre façon de voir les choses? Qu'est-ce qu'elle a déclenché?
À ce moment-là, le premier reportage que j'ai fait, c'était sur l'islamophobie. Et voilà, ensuite, après, je me suis posé moi-même des questions sur l'islam. Et puis, comme j'étais déjà un peu féministe, je me suis dit, ah oui, alors est-ce que les deux sont compatibles? Et puis là, j'ai découvert les écrits de Asma Lamrabet, marocaine.
Médecin marocaine engagée.
Voilà, féministe. Très engagée, qui a relu le Coran dans une perspective féministe. Et en fait, voilà, je pense que c'est des petites découvertes comme ça qui ont fait que je me suis intéressée à ce sujet. Et voilà, ensuite. Quand j'écris des articles, justement, j'essayais toujours de montrer des femmes différentes avec des parcours hors du commun. Et j'avais interviewé notamment Nadia, parce que moi j'aime bien les femmes avec qui sont engagées, qui ont des talents. Et au départ, ça commençait avec des articles. Et puis après, je me suis dit, c'est dommage que ces profils-là ne soient pas connus davantage.
D'où les clichés sur les femmes musulmanes viennent-ils? Est-ce que c'est sur les femmes musulmanes ou c'est sur les femmes musulmanes qui portent le foulard? Les clichés.
Je pense qu'ils viennent surtout. Enfin, c'est surtout les femmes musulmanes qui portent le voile qui sont le plus.
Stigmatisées.
Le plus stigmatisées, les plus déshumanisées, en fait. Principalement, ça vient de la télé, de la presse, mais et c'est vrai que même au niveau culturel, par exemple à la télé, on avait dans la série Plus belle la vie, qui est quand même regardée énormément par au moins des millions de personnes, on avait une jeune ado musulmane qui porte le voile, et en fait on reste toujours sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire elle est perdue entre tradition et modernité, entre sa foi, etc. Alors qu'à côté, il y avait une ado du même âge qui, elle savait ce qu'elle voulait, elle était hyper engagée pour la nature, les arbres et tout. Et pourquoi c'était pas la musulmane qui était engagée envers la nature? En fait, on reste toujours sur les mêmes stéréotypes. Dans les livres, c'est pareil. Les livres jeunesse. Alors oui, il y a des livres religieux avec des héroïnes musulmanes, mais juste une héroïne musulmane dans un livre et, on a très peu qui, sans sans forcément que ce soit religieux, quoi. Donc voilà, je pense que c'est
finalement
ça tout ça,
que ce soit totalement banalisé, mais au sens positif du terme.
Oui, voilà, juste une héroïne. On parle pas forcément de religion, mais on la suit. On sait qu'elle est musulmane et oui. Voilà, c'est tout. On va pas.
Et ça, c'est une méconnaissance du terrain, puisque effectivement, le profil que vous venez de décrire, hein, une jeune qui porterait un voile et qui serait motivée, qui aurait une ambition, engagée. Mais en fait, il y en a plein, ouais, effectivement. Ouais. Mais on ne les entend pas parce qu'on ne les questionne pas. On ne va pas les chercher, en fait.
Exactement. Donc, voilà.
Même si aujourd'hui, les réseaux sociaux ont libéré la parole, oui, et la visibilité, comme en 10 ans, ça a énormément changé.
Oui, ça a changé, mais bon. Moi, en fait, quand on tape femme musulmane inspirante sur Internet, on trouve toujours un peu les mêmes profils et il n'y a pas tant de profils que ça. Moi, j'ai passé des heures et des heures de recherche, j'ai tapé des choses en anglais aussi pour trouver des femmes et je me suis dit, c'est incroyable, elle existe et personne ne la connaît en fait. Donc, je pense que c'est quand même assez difficile d'accès. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé des heures et des heures à chercher toutes ces femmes. Donc.
C'est pas mis en avant. Enfin, vous avez totalement raison. Si maintenant ma fille devait taper sur Internet féministe contemporaine ou féministe, enfin engagée, elle aurait tout de suite Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges. Enfin, elle aurait ces grandes figures hein, qui restent des modèles pour nous toutes. Hein. Mais l'identification du coup reste limitée parce que si cette même jeune femme recherche une femme qui lui ressemble, ben, d'emblée, en fait, elle va se retrouver face au questionnement de « Oui, mais bon, moi, avec mon voile, est-ce que je pourrais finalement aller au bout de mes ambitions parce que, en face de moi, j'ai une société où j'ai des personnes, enfin, je suis dans une société où il y a des personnes en face de moi qui vont finalement me stopper dans mon élan. » C'est une réalité.
Oui, et puis, par exemple, dans le livre, il y a une femme qui s'appelle Nouri Nayat Khan, qui était, résistante et opératrice radio, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme qui a vécu à Suresnes, donc en France. Il y a une école qui porte son nom, mais...
Personne ne sait qui c'est.
Personne ne sait qui c'est, en fait. Et elle n'est jamais mise en valeur, donc c'est vrai que...
Elle est morte à Dachau,
Exactement, en fait, elle a été exécutée à 30 ans.
Oui, elle a été déportée dans les camps.
Exactement. Mmh. Et en fait, c'est dommage qu'elle ne soit pas dans les livres d'histoire, qu'on ne parle pas justement...
C'est grandement dommage, parce que c'est quand même une femme qui a contribué à la résistance.
Voilà, qui ont contribué à la résistance, qui ont sauvé la France, quoi. Et en fait, on n'en parle jamais, donc ça, c'est un des profils, par exemple, dans les Françaises, oui, c'est très dommage que ce ne soit pas mis en avant.
Chez les Anglais, parce qu'elle est anglaise, d'origine.
Oui, elle a vécu en France.
Oui, mais est-ce qu'elle est plus reconnue par les Anglais ou pas?
Alors, je crois que c'était il y a quelques années où il y a eu un square qui a été, avec un baptisé, buste, qui a été baptisé à son nom, mais ça prend quand même du temps, en fait. Oui. Par exemple, on a aussi la Tunisienne Tawida Bencher.
C'est quoi ce qu'on fait? On va parler de la Tunisienne tout à l'heure, après la page de publicité. D'accord. En attendant, vous pouvez googler Nour Inayat Khan si vous ne la connaissez pas. Ah. Et on parle de ces femmes inspirantes ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de ces femmes inspirantes avec notre invitée qui s'appelle Élise Saint-Julien et qui publie Musulmane du Monde à la rencontre des femmes inspirantes. Ça fait partie des mots inspirants qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. Donc, j'ai rien contre vous, mais c'est vrai, c'est bienveillant, inspirant.
Éveillante, des femmes éveillantes.
Ça peut changer.
Ouais, voilà,
ça fait très livre de Léa Salamé.
Éveillante ?
Non, inspirante.
Ah oui, inspirante, oui. Bah, disons éveillante, motivante.
Ouais. Bon, en tout cas, moi, ce que je trouve très réussi dans votre livre, c'est qu'effectivement, à part une ou deux ou trois, toutes les femmes que vous présentez, le portrait des 30 femmes que vous présentez, ce sont des femmes qu'on ne connaît pas.
Oui.
Donc, ce qui est bien, ce qui nous permet aussi de faire des recherches avec vous sur leur histoire, qui elles sont. Et on parlait du livre d'Attika Trabelsi qui est venu il y a 2 semaines, Nadia. Vous avez une femme en commun.
Oui, une Indonésienne.
L'Indonésienne, l'amiral.
Ouais, exactement. Eh oui, exactement. Ouais, on n'en a qu'une. C'est bien, ça fait des profils, un maximum de profils. C'est très bien qu'elle ait fait ce livre aussi, parce que comme je me suis moins intéressée au passé, c'est très complet du coup.
Certains seront surpris peut-être de retrouver Oum Kalthoum dans votre livre.
Oui.
Pourquoi Oum Kalthoum ? Alors, pour le coup, elle, elle est connue. Hein. Mm. Mais en fait, on connaît peu son histoire et comment elle a débuté dans la chanson et comment les subterfuges qu'elle utilisait pour pouvoir faire ses premières scènes.
Mm. Oui, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre une femme chanteuse. Parce que c'est vrai que ça peut, des fois, ça peut être un petit peu polémique. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans son portrait, c'est que c'est son père, en fait, qui l'a aidée dans sa carrière. C'est son père qui l'a accompagnée au Caire pour qu'elle puisse faire carrière. Et souvent, on dit que les pères ou les de la famille ou les frères sont
des obstacles.
Sont des obstacles, en fait, pour l'émancipation des
femmes. Des frénateurs,
oui. Voilà, ou à leur carrière. Et en fait, là, on voit qu'il y a plusieurs fois des femmes où leur père, en fait, a joué un rôle très important.
Dans leur instruction, dans leur éducation.
Exactement. Ouais. Touria Chaoui aussi, qui était aviatrice, c'est son père qui l'a inscrite à l'école de pilotage. Donc, comme quoi, c'est aussi des.
Après, on a des exemples quand même où d'autres ont dû lutter contre leur famille pour pouvoir s'émanciper.
Aussi, exactement. Hein.
Mmh. Mais Oum Kalthoum, elle commence à pas réciter le Coran.
C'est,
hein.
C'est ça qui est intéressant chez Oum Kalthoum, effectivement. Et son père l'a déguisée en garçon pour qu'elle puisse se psalmodier, en fait.
Oui, et puis bon, on voit que finalement, après, voilà, elle réussit à faire carrière et à. Ouais, je trouve que c'est un bel exemple.
Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que même quand on a, par exemple, des bonnes volontés, comme le père d'Oum Kalthoum, qui a tout de suite vu le talent de sa fille, il y a l'obstacle sociétal à passer.
Oui, il y a toujours un peu des conventions, des normes sociales, parfois, voilà, qu'elles devront combattre. Mmh. Mais on le voit avec d'autres femmes dans le livre, mais c'est vrai que elles vont au-delà, en fait, et elles se battent pour faire évoluer les choses. Donc, et on voit que c'est. En fait, elles prennent elles-mêmes leur destin en main, parce que des fois, on a l'impression qu'il faut un peu sauver ces femmes, alors qu'en fait, elles sont tout à fait capables de s'émanciper, de se sauver elles-mêmes s'il y a besoin.
Alors, ça, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire, effectivement. C'est très souvent, en fait, les femmes, notamment les femmes musulmanes qui portent un voile, en fait, sont de facto mises en position, en fait, de victimes.
Oui.
Donc, elles sont soumises, elles sont, les pauvres à la traîne de la société. Et du coup, certaines se victimisent parce que, du coup, avec tous ces obstacles-là en face, il y a un espèce de mindset négatif là qui se met en place.
Hein?
Et là. Un état d'esprit
un
en fait
mindset négatif dans la bouche de Nadia El Bouga,
oui,
ça va
un
ça
état
fait,
d'esprit
ça fait ma journée là
c'est vrai c'est pas du tout le mon type de vocabulaire du coup qui se met en place et ces jeunes femmes en fait c'est le profil qu'on aimerait avoir de ces jeunes femmes. Or là, vous nous démontrez avec l'histoire de ces 30 femmes que bien souvent, ce n'est pas du tout le cas. En fait, elles ne sont pas défaitistes, mais elles sont plutôt battantes.
Par exemple, c'est vrai qu'on a une image très négative de l'Afghanistan, de l'Iran, ou de ces pays-là, ou même de l'Arabie Saoudite. Et là, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, j'ai décidé de choisir une femme qui est dans la culture, qui a fait le premier film en Arabie Saoudite, alors que les salles de cinéma étaient interdites.
Planqué dans une voiture quand même.
Exactement.
Planqué dans un van.
Oui.
Donc non seulement.
Haifa Al-Mansour.
Voilà. Mmh. Elle défend les droits des femmes, mais en plus elle promeut la culture, l'art dans un pays qui a interdit les salles de cinéma. Donc pour moi c'est quelque chose de positif parce qu'on voit que vraiment c'est des femmes qui veulent changer les choses et qui sont pas du tout victimes, quoi.
Tout à fait. Et elle a bien eu raison puisque après c'est en 2017 je crois les cinémas
ont enfin été ouverts.
Voilà, réouverts parce qu'ils ont été ouverts à une époque finalement.
Donc voilà, moi j'ai voulu aller à contre-pied un peu et choisir des femmes battantes, déterminées.
Alors Inayat, puisque avant la pub on a fait ce teasing.
Eh oui.
Important, Inayat. Donc c'est un prénom que vous aimez bien, vous,
oui,
Nadia.
Alors je disais effectivement que ma fille s'est identifiée à cette héroïne de l'histoire que personne ne connaît, une résistante britannique donc qui était agent secret également,
exactement.
Et qui a œuvré dans donc à, lors de la Seconde Guerre mondiale, voilà, pour la libération de la France, notamment. Et donc, nous disions, en fait, que finalement, ces profils de femmes ne sont pas connus, alors qu'elles ont contribué. On parle de ne pas oublier, de garder la mémoire de l'histoire, mais il faut être honnête. Dans cette mémoire, il faut inclure tout le monde.
Exactement.
Alors pourquoi ne pas inclure ces femmes?
Oui. En plus, elle a vécu à Suresnes, il y a une école qui porte son nom, mais voilà, il faudrait que ça aille, justement, que dans les écoles, on enseigne plus ce type de profil.
Il faut les connaître, il faut les sortir de l'oubli donjons de l'histoire.
Alors justement, moi je vais jeter le pavé dans la mare. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté finalement d'invisibiliser ces femmes pour les laisser dans une posture de victime éternelle?
Je pense qu'il y a une invisibilisation, déjà je pense des femmes en général, parce que dans les livres d'histoire, bon ça y est, dans les livres on a un peu plus de femmes maintenant, mais moi à l'école... Je sais pas, on m'a jamais parlé de femmes qui avaient changé le monde, hein, jamais.
Et Jeanne d'Arc.
Oui, à la limite. Mais du coup, c'est vrai que je pense que déjà, les femmes ont été invisibilisées. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de livres qui les mettent en avant sur comment elles ont changé l'histoire. Et alors encore plus les femmes musulmanes, c'est vrai que vraiment, je pense que là...
Oui, alors vous voyez, c'est intéressant l'exemple de Jeanne d'Arc. Pour qu'on parle d'une femme, il faut qu'elle soit vierge et il faut qu'elle soit plutôt.
J'ai pris l'exemple qui m'est venu.
Oui.
Bon, après, on a quelques régentes, enfin voilà, mais bon.
Je sais bien, je vous taquine, mais c'est dire que voilà, des femmes avant Jeanne d'Arc, il y en a eu, heureusement.
Après.
Oui. Mais
quel est l'autre nom qui vous vient? Alors,
on parle
de notoriété instantanée.
Tout à fait, Nadia, ce que dit Élise est totalement juste. Effectivement, on a les féministes les plus récentes dont on parle. À un moment donné, quand on est une femme racisée de confession musulmane qui porte un voile, on va s'identifier dans l'action. Mais à un moment donné, il y a aussi, on le sait, une identification visuelle. Et quand vous voyez que la femme qu'on vous donne à voir comme modèle ne vous ressemble pas vraiment, ça ne veut pas dire que vous ne la prendrez pas comme modèle. Mais à un moment donné, vous vous questionnez, vous dire oui, mais finalement, est-ce que moi, avec ce que je suis comme femme, ça serait possible? C'est ça. Et la question est légitime.
Si on prend l'exemple des femmes qui portent un foulard dans votre livre, qui ont réussi, est-ce qu'à un moment donné, elles se sont posées la question de savoir si elles allaient enlever leur foulard pour réussir ou pas du tout?
Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu des difficultés. Aux
États-Unis, par exemple.
Oui, aux États-Unis ou en Turquie aussi, parce qu'à un moment, le voile était interdit. Donc,
elle, c'est ma préférée. Yurcine.
Oui.
Une astrophysicienne.
Qui a donné son nom à une galaxie.
Elle est turque.
Exactement.
Qui sait qu'il y a une galaxie qui s'appelle Bursin au nom de cette femme musulmane qui porte un voile d'origine turque et qui est juste une astrophysicienne
Mais il faut raconter l'histoire parce que c'est intéressant, son histoire.
En fait, elle était originaire d'une petite ville et en fait elle a décidé d'étudier à Istanbul et à ce moment-là sa famille l'ont un peu découragée, mais du coup et en plus elle portait le voile à l'université. Quand elle est arrivée au cours, on lui a dit mais
il n'y avait que des garçons,
donc qu'est-ce qu'elle fait là? Et non, elle a quand même persévéré, elle a porté d'autres choses sur sa tête, d'autres couvre-chefs pour pouvoir continue à étudier, et puis finalement elle est partie aux États-Unis.
Mais ceci dit,
parce qu'elle a étudié à l'époque où le voile était interdit à l'université en Turquie.
Oui, mais enfin, la galaxie, elle la découvre alors qu'elle était étudiante pendant ses études en plus.
Oui.
C'est incroyable.
Oui. Ouais. Oui.
Et donc elle porte son nom. Donc là, pareil, vous googlez comment elle s'appelle.
Alors je ne sais pas si je prononcerai bien, hein, mais Bursin Mutlu Pakdil. Je la prononce à la française. En turc, ça ne doit pas être comme ça.
C'est pas grave. Mais qu'au moins les Français la connaissent.
Voilà,
c'est
ce
pas mal.
Bien,
avec l'accent français, c'est pas grave. Mais là, typiquement, alors moi, ce qui m'a aussi marqué dans l'histoire de Bursin, c'est. Alors, là, pour le coup, je tire mon voile, c'est le cas de le dire, aux anglo-saxons, parce que ils ont quand même, on a beau dire, on est sclérosé en France, ils ont ce don de voir au-delà en fait des apparences, et ils ont tout de suite perçu chez cette étudiante en fait un potentiel énorme.
Ah oui, et puis même par rapport à ce livre, je sais qu'il y a déjà plusieurs livres en anglais qui sont parus sur des femmes inspirantes. Mmh. Eux, il n'y a aucun souci de, de publier ce genre de livre. Il y en a déjà plusieurs. Hein.
Donc, ouais.
Musulmanes ou finalement des femmes inspirantes, et là on inclut vraiment toutes les femmes.
Moi en tout cas, celui que j'avais acheté, c'était un livre sur les femmes musulmanes en anglais. Femme musulmane inspirante, ouais, un peu de ce type-là. Ouais.
Ce qui serait bien, c'est un livre qui, voilà, où on enlèverait musulmane et les femmes inspirantes.
Oui, mais ça, c'est l'étape d'après.
Évidemment,
mais de toute façon, c'est
moi, j'aime pas trop les ghettos, donc c'est pour ça.
Ouais, on est d'accord, ouais. Mais pour sortir d'un ghetto, faut déjà qu'on accepte de nous laisser sortir des ghettos. Déjà, donc permettez-nous d'abord de faire quelque chose d'exclusif pour après aller dans l'inclusif. On peut pas aller dans l'inclusif tout de suite, en fait. C'est tout le débat et toutes les critiques qui ont été faites sur les groupes non mixtes et compagnie. À un moment donné, on le sait. Je vous prends un exemple tout bête. Excusez-moi de cette petite digression. Dans le féminisme en France, on sait que les féministes matérialistes radicales ont commencé par faire des groupes non mixtes, c'est-à-dire où il n'y avait que des femmes de leur groupe pour pouvoir discuter des droits des femmes. Ça n'a choqué personne et ça ne choque personne actuellement. Lorsque des groupes ethnicisés, on va dire, font ça, on commence à s'insurger. Mais oui, on peut être universaliste tout en ayant besoin d'avoir un gros groupement momentané entre nous, pour ensuite, là par exemple, typiquement, c'est un livre qui est fait par Élise, qui est musulmane. S'il avait été fait par une autre personne, tant mieux, hein. Mais là, à un moment donné, c'est quand même une musulmane qui s'est intéressée à des femmes qui ont la même confession, pour pouvoir après éventuellement les retrouver dans un livre plus généraliste.
Ce qui est bien avec Nadia, c'est que je sais exactement
sur quel bouton appuyer.
Exactement. Alors, vous savez, je sais pas dire quel bouton appuyer. J'ai dit sinon, elle va m'envoyer. Mais je sais ce qu'il faut dire. Voilà. On parle de ces femmes musulmanes qui nous inspirent ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà. Alors, on parle de pionnière. On reçoit une pionnière ce matin. Elle s'appelle Élise Saint-Julien, puisque c'est vous qui avez répertorié pour la première fois 30 femmes musulmanes du monde.
Et on le dira dans l'histoire.
Voilà.
Ah ben oui, hein.
Mais et alors vous rassemblez donc ces portraits dans un livre qui s'appelle Musulmanes du monde à la rencontre de femmes inspirantes. Mmh. Alors c'est un livre qui est illustré. D'ailleurs, c'est l'illustratrice qui ouvre le portrait la série de portraits.
Elka Imani.
Voilà, vous lui avez donné des directives pour qu'elle les croque ou quelle était la feuille de route?
Alors, moi, je voulais vraiment donc visibiliser les femmes musulmanes, donc ça passe aussi par l'image. Mmh. Donc, je tenais vraiment à ce que ce soit un beau livre et qu'il y ait de belles illustrations. Et je voulais un format avec double page, qu'on voit bien le portrait de la femme et qu'il y ait des petits dessins autour. Et après, je lui ai laissé vraiment carte blanche et j'étais très, très satisfaite parce que vraiment, elle a dépeint des femmes avec beaucoup de couleurs. Ouais. On n'a pas l'habitude, quand on voit des femmes musulmanes, souvent c'est très sombre, très noir.
Ou monochrome.
Là, voilà, exactement. Et là, vraiment... voilà, c'est des femmes. En fait, leur portrait est sublimé, je trouve. Et il y a beaucoup de couleurs. Voilà, moi, j'étais très contente. Je pense que ça peut vraiment attirer quand on lit un portrait, ouais, d'avoir des beaux dessins comme ça.
Et
plus que des photos,
exactement.
Oui. Hein. Je trouve que, oui, ça laisse un peu l'imaginaire aussi. On peut se projeter.
Au centre du livre, d'ailleurs, il y a une carte monde.
Exactement, où on peut situer les femmes. Donc ça, c'était aussi son idée.
Et ça, c'est chouette.
Ouais, je trouvais ça très sympa aussi. Donc voilà.
Bon, vous expliquiez tout à l'heure les difficultés qu'il y a à recenser ces femmes, parce qu'il a fallu les chercher. Donc c'est en ça que votre travail d'investigation a consisté. Les 5 premières, on les trouve facilement. C'est après que ça commence à devenir un peu plus compliqué. J'aimerais, une fois n'est pas coutume, que vous les citiez toutes ces femmes, parce que ça va vous donner une idée du fait que vous ne les connaissez pas du tout. ces femmes. Alors, il y en a certaines, peut-être, que vous connaissez parce que elles ont eu des médailles d'or, ce sont des sportives de haut niveau, mais pour la plupart d'entre elles, on ne les connaît pas. Donc, si vous voulez les citer, ça vous permettra peut-être d'avoir une idée du spectre large que vous balayez.
Vous voulez que je cite toutes ?
Oui.
D'accord. Alors, donc on a Boursine Moutlou Pagdil, Ribia Kadir, Bouchra Baïbani.
Alors, Ribia Kadir, une Ouïghour.
Donc, Ribia Kadir, c'est une Ouïghour qui était femme d'affaires, qui a vraiment défendu toute sa vie la cause Ouïghour, qui même allait en prison. Vraiment une histoire incroyable. Il y a son autobiographie qui existe.
La mère du peuple ouïghour.
Et qui est toujours vivante.
Elle est toujours vivante, ouais. Exactement. Ensuite, on a donc Bouchra Baïbanou, qui a été la première maghrébine du coup, à gravir l'Everest et les plus hauts sommets du monde.
Et elle le gravit, enfin, il faut le dire, elle porte un voile. Oui. Ça ne l'a absolument pas empêchée de faire tous les sommets du monde avec son voile.
Exactement. Ensuite, on a donc Shamsia Hassani, du coup, qui est une street artiste afghane, voilà, qui aussi défend la cause des femmes à travers ses dessins. On a Masnoura, qui du coup est une fondatrice d'une coopératrice de femmes pêcheuses en Indonésie et qui aussi défend les femmes victimes de violences à travers sa coopérative. On a Tawakkol Kerman, du coup, qui est une journaliste yéménite, la première à avoir le prix Nobel de la paix en 2011.
Elle était très jeune, hein. Elle avait 30 ans. Hein.
Oui,
elle 32 ans, jeune, oui. Donc, c'était une des plus jeunes, d'ailleurs.
Hein. Tout à fait. Ensuite, on a Ibtiaj Mohamed, donc, escrimeuse, qui a été la première athlète américaine à porter le voile aux Jeux Olympiques.
Tout à fait.
Qui a servi de modèle à
la
poupée Barbie.
Exactement, à la Barbie.
Oui,
Barbie
et qui a aussi servi de modèle à une jeune fille qui a lu le livre et qui a décidé de faire de l'escrime après avoir découvert le portrait de Ibtiaj Mohamed. Ouais. Donc là, moi, j'ai été comblée, c'était le but.
Et en sachant qu'elle s'est dirigée, elle a toujours été sportive, mais elle s'est dirigée vers ce sport parce qu'elle s'est dit, c'est peut-être le seul sport où on ne va pas me prendre la tête, voilà, exactement, pour mon voile.
Exactement. donc ensuite on a Oum Kalsoum, voilà, chanteuse égyptienne, une des plus grandes voix du monde arabe.
Du monde tout court, on peut dire.
Oui, aussi, exactement. on a Shirin Ebadi, du coup, qui est
connue pour elle, pour le coup.
Voilà, elle est un peu plus connue, du coup, elle a eu le prix Nobel de la paix aussi, elle était juge en Iran. Voilà. On a donc Touria Chaoui, qui est première avatrice marocaine.
Non, mais qui est morte abattue à 19 ans dans des conditions encore pas
élucidées. Il y a des histoires un peu tragiques aussi, des fins un peu tragiques.
C'est-à-dire, non seulement c'est devenu une aviatrice très jeune.
Elle a piloté à 16 ans, elle a fait son premier vol.
Déjà, première femme, et en plus, à un moment où c'était la colonisation. Donc en fait, les moyens n'étaient pas. C'était pas ouvert vraiment.
Et elle meurt dans un attentat, en fait.
Oui.
Zaha Hadid.
Donc, elle était architecte et c'est elle qui a reçu le prix Pritzker, en architecture. Donc, une des plus grandes architectes du monde. Hein.
Contemporaine,
ouais. Exactement.
Elle a réalisé l'opéra.
Alors, c'était, je ne sais plus, excusez-moi. Du coup, c'est.
Elle voulait pas offrir une mosquée aux
Grecs. Elle a réalisé l'opéra de Canton.
Celle qui voulait offrir une mosquée aux Grecs.
Exactement. Mais bon, finalement, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait. Oui.
Mais très bel hôtel à Madrid où elle a fait tout un étage. Avec une piscine rouge, Nadia.
Oh là là.
C'est sur le toit.
Il faut vraiment que j'aille visiter.
Non, mais c'est un très bel hôtel. Alors là, je peux vous dire. Hôtel Silken. Puerta América.
Et qui a bataillé pour avoir cette place de architecte reconnue.
Je pense qu'elle
c'est intéressant de le dire. Alors elle, par exemple, Zaha ne porte pas de voile, mais elle a été confrontée au sexisme du milieu,
Et
femme racisée, femme arabe, en plus arabe, et en plus confrontée dans un monde où ce sont les hommes qui sont le
plus. Oui, souvent dans le livre, j'ai voulu aussi mettre des femmes. Qui exercent des métiers où on ne les attend pas ou des métiers plutôt réservés aux hommes. C'était le but aussi de montrer qu'il n'y a pas de métiers qui sont plus pour les hommes.
Et toutes les contraintes qui se rajoutent. Donc c'est vraiment intersectionnel en termes de contraintes. Ensuite, on a notre grande malaisienne.
Voilà, Kemal Hayati, qui était la première femme amirale.
Indonésienne.
Indonésienne, oui.
Indonésienne.
Oui, j'ai dit quoi?
Malaisienne.
Ah non, indonésienne. Ouh là 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 là.
Elle vient d'Aceh.
Oui, oui, évidemment. Elle vient de indonésienne.
Voilà.
C'est un Fatima Gibril.
Donc Gibril. Fatima Gibril, du coup, qui était militante écologiste somalienne, qui a reçu un grand prix pour l'environnement.
Oui.
Pionnière de la déforestation.
Exactement. Mmh. Et elle a fait une grande marche dans tout le pays pour défendre...
les acacias.
Exactement. Mmh. Ensuite, on a Jasmine Akhter, du coup, qui est une réfugiée Rohingya, c'était important pour moi de mettre vraiment une Rohingya, qu'on connaisse un peu cette cause aussi. Mmh. Et donc, elle est partie en Angleterre, et c'est là où elle a découvert le cricket. Et voilà, je voulais mettre en avant...
Oui, après un drame familial, racontez-vous, elle avait 9 ans et...
Voilà, et un accident de voiture, et... Et du coup, elle a perdu des membres de sa famille et ils sont partis ensuite en Angleterre. Mmh. Voilà.
Ensuite, vous dites qu'elle a été classée, elle, parmi les 100 femmes les plus influentes dans le classement de la BBC.
Oui,
donc c'est important.
C'est une découverte aussi. Ouais. Ouais. Mmh.
Alors ensuite.
Donc on a la fameuse Noor Inayat Khan, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et puis donc Fatima Al-Firia. Qui est née en Tunisie et qui est fondatrice de la plus grande, la plus ancienne université au monde.
Qaraouine.
Oui. Voilà, à Fès.
Et alors moi, je ne sais pas pourquoi sa sœur est toujours oubliée.
Oui, c'est vrai.
Mariam.
On parle toujours de Fatima Al-Firia.
Alors
Firia.
À chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Alors, je dis pas que c'est injuste, mais elle avait une sœur, c'était deux sœurs.
Oui, c'est vrai. Mais et certainement,
elle a été bâtisseuse,
être...
sa sœur aussi. Ouais.
Peut-être qu'elle était plus active.
Elle devait être. Je pense que c'est elle devait aller.
Pourquoi l'histoire ne retient qu'elle?
Parce que certainement, c'est elle qui devait aller au charbon et qui devait aller se confronter à la gente masculine sur le terrain. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a retenu son nom à elle. Ça ne veut pas dire que, justement, vous avez tout à fait raison que dans un binôme, il y a toujours un ou une qui est un petit peu plus effacée.
Complètement oubliée.
Ouais,
hein. Si on va à Fès, de toute façon, on va marcher sur les traces des deux sœurs.
Des deux sœurs, exactement. Vous avez totalement raison, Philippe. Et après, donc, notre grande...
Donc, Ilhan Omar. Qui est un petit peu plus connue, quand même. Mm-hmm. Et donc, qui est une des premières femmes musulmanes à avoir été élue au Congrès des États-Unis.
Ouais.
Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut jurer sur la Bible, quand on est élu au Congrès.
Oui, et elle a fait sur le Coran.
C'est un Coran bien particulier.
De son grand-père.
Exactement.
Hein, vieux, à fait. Vieux, un ancien Coran. Oui. Et je trouve, elle est alignée, cette femme, en réalité, c'est vrai. Parce que pour le coup, de confession musulmane, pour elle, ça a du sens de prêter serment sur le Coran et pas sur la Bible.
On va parler de Hawa Abdi ensuite, puisqu'on a parlé de la réalisatrice saoudienne déjà.
Oui. Alors Hawa Abdi, moi, c'était une de mes préférées dans ce livre, qui m'a le plus inspirée. Donc, elle était médecin, gynécologue en Somalie. Elle a ouvert un camp de réfugiés qui a accueilli plus de 10 000 personnes. Mm-hmm. Elle a consacré toute sa vie vraiment à aider les autres. Et elle avait interdit les divisions entre clans en Somalie. Dans son camp, sous peine de bannissement, et interdit également les violences faites aux femmes. Donc elle est décédée en 2020, et vraiment, c'est, comme on la surnomme, la Mère Teresa de Somalie. Mmh. Donc, vous pouvez lire son autobiographie, c'est vraiment passionnant. Mmh.
Bon, et puis on est pris par le temps, mais j'aimerais qu'on termine avec Majd Macharaoui.
Mmh. Oui, et du coup... Donc,
Majd Macharaoui, oui.
Ingénieure, entrepreneuse, donc elle a apporté l'électricité en kit à Gaza.
Elle a inventé des sunbox.
Ouais. Voilà, et qui permettent d'avoir de l'électricité beaucoup plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité à Gaza.
Et en raison du blocus.
Exactement. Et aussi, elle a inventé des briques.
Intelligentes, en fait.
Oui, en fait, c'est des femmes qui, je pense, elles ne font pas que face à des difficultés de patriarcat, mais c'est aussi vraiment des difficultés liées à la guerre, à l'occupation. Elles connaissent des deuils, des exils. Ouais, vraiment, c'est des femmes battantes.
Battantes, et du coup, leur créativité, en fait, est complètement décuplée, à fait.
Bon, on ne pourra pas les citer toutes les 30. Moi, j'ai juste terminé sur Lala Fatma Ensoumer.
Oui.
Qu'on connaît bien, l'Algérienne, Kabyle, qui a été considérée comme une féministe avant l'heure.
Lala Nouerjda.
Oui. Oui, en fait... En fait, on cite souvent Jamila Bouhired, et du coup, j'avais envie de changer un peu de... Qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont milité en Algérie, donc voilà, une combattante. Ouais, c'était important aussi de mettre ce genre de profil.
Combattante résistante.
Oui, exactement.
Mmh. Je rappelle le titre de votre livre, « Musulmane du monde ». Nadia le montre à la caméra, puisque l'émission est filmée, à la rencontre
absolument
de femmes inspirantes, ouais. 30 portraits de femmes qui prouve que c'est possible. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et voir la vidéo sur la chaîne YouTube.
Voilà, et je voulais juste dire, vraiment, achetez-le pour vos filles, pour vos garçons et pour vous-même, parce que c'est pas qu'un livre pour les jeunes, c'est aussi un livre pour nous, les adultes.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.